La vigueur de cette harangue parut avoir dégoûté Bohémond de toute entreprise nouvelle sur un adversaire intraitable dont il admirait d'ailleurs l'intransigeance et la catapultuosité, des nominatifs monstrueux qu'il avait puisés dans le Gauloir de Flaubert, autrefois beaucoup trop connu. « Pauvre Bohémond, » marmotta cette bonne rosse d'Apémantus, depuis qu'en un soir d'ivresse, il a vendu son reflet à Catulmandès pour quelques centimes, comme dans le conte allemand, il est devenu incapable de se retrouver lui-même, fût-ce à tâtons. Les autres que Marchenoir avait traînés par des chemins où ils n'avaient pas coutume d'aller se récupérèrent et s'orientèrent comme ils purent. Gacougnol, très satisfait d'une si belle défense des idées qu'il croyait avoir, félicita bruyamment le grandiloque et fit circuler des boissons. Clotilde, cependant, restait sur son appétit d'émotions intellectuelles. Il lui semblait que tout n'était pas fini. Quelque chose qu'elle n'aurait pu dire manquait à cette primitive, à cette neuve qui voulait son héros tout à fait sublime, et d'instinct, elle attendait un raid de foudre. Aussi, les pulsations de son âme se multiplièrent lorsque Druide, visiblement égaré, depuis que Marchenoir avait arraché la langue à Bohémond, l'interpella en ces termes qui ne permettaient aucune évasion. « De tout ce que vous nous avez dit, Marchenoir, je ne peux et ne veux retenir qu'un mot, qui me précipite, je suis forcé de l'avouer, dans un gouffre de stupéfaction. Suis-je un artiste ? Avez-vous crié tout à l'heure, de l'air d'un corsaire qu'on menacerait d'enchaîner au banc d'une chourme ? Notre ami vous a exprimé son étonnement, qui n'a pas dû être médiocre. Voulez-vous me permettre une question ? Si vous n'êtes pas artiste, qu'êtes-vous donc ? Je suis pèlerin du Saint-Tombeau, répondit Marchenoir de sa belle voix grave et claire, qui fait ordinairement osciller les crêtes et les caroncules. Je suis cela et rien de plus. La vie n'a pas d'autre objet. Et la folie des croisades est ce qui a le plus honoré la raison humaine. Antérieurement au crétinisme scientifique, les enfants savaient que le sépulcre du Sauveur est le centre de l'univers, le pivot et le cœur des mondes. La Terre peut tourner autant qu'on voudra autour du Soleil. J'y consens, mais à condition que cet astre, qui n'est pas informé de nos lois astronomiques, poursuive tranquillement sa révolution autour de ce point imperceptible et que les milliards de systèmes qui forment la roue de la Voie lactée continuent le mouvement. Les cieux inimaginables n'ont pas d'autre emploi que de marquer la place d'une vieille pierre où Jésus a dormi 3 jours. Né, pour ma désolation indicible, dans un fantôme de siècle où cette notion rudimentaire est totalement oubliée, pouvais-je mieux faire que de ramasser le bâton des vieux voyageurs qui crurent à l'accomplissement infaillible de la parole de Dieu ? Il me suffit de croire, avec eux, que le lieu saint doit redevenir, au temps marqué, le siège épiscopal et royal de cette parole qui jugera toutes les paroles. Ainsi sera résolue l'anxiété fameuse que les politiciens nomment si sottement la question d'Orient. Alors, que voulez-vous que je vous dise ? Si l'art est dans mon bagage, tant pis pour moi. Il ne me reste que l'expédient de mettre au service de la vérité ce qui m'a été donné par le mensonge. Ressource précaire et dangereuse, car le propre de l'art, c'est de façonner des dieux. Nous devrions être horriblement tristes, ajouta l'étrange prophète, comme se parlant à lui-même. Voici que le jour descend et que vient la nuit où personne ne travaille plus. Nous sommes très vieux et ceux qui nous suivent sont plus vieux encore. Notre décrépitude est si profonde que nous ne savons même pas que nous sommes des idolâtres. Quand Jésus viendra, ceux d'entre nous qui veilleront encore à la clarté d'une petite lampe n'auront plus la force de se tourner vers sa face. Tellement ils seront attentifs à interroger les signes qui ne peuvent pas donner la vie. Il faudra que la lumière les frappe dans le dos et qu'ils soient jugés par derrière. Clotilde revint chez elle à 3 heures du matin, escortée de ses amis Gacougnol, Marchenoir et Léopold, qui avaient tenu à la reconduire jusqu'à sa porte, dans ce quartier de marchands de salaison du Pacifique et de souteneurs de la Pinte à Paul, l'un des plus redoutables du Paris actuel. Enivrée de cette soirée singulière, intolérable sans doute pour d'autres femmes, où s'était affirmée, d'une manière si décisive, la prééminence de l'homme sur les animaux privés de grammaire, habituée d'ailleurs à ne donner aucune attention à ce qui se passait chez la séchoire, elle ne songea pas à s'étonner de voir qu'on veillait encore, et ne voulut même pas remarquer, en traversant le vestibule pour gagner sa chambre, le chuchotement soudain de plusieurs voix dans le grand salon. Elle ne devait s'en souvenir que plus tard. Mais elle eut un vague frisson et, à peine rentrée, tira son verrou. Vaillante comme elle était, cependant, elle ne tarda pas à se remettre complètement et à se moquer d'elle-même. Courte prière, déshabillage rapide et sommeil. Voici maintenant les fantômes qui passent devant les yeux ouverts de son âme. Vêtue avec magnificence et beaucoup plus belle que les reines, elle se voit assise dans un lieu très bas. Elle a froid et elle a peur, mais pour le salut du monde, il ne lui serait pas possible de remuer le bout d'un doigt. Le silence est énorme, et l'obscurité à quelques pas est si compacte, si coagulée, si poisseuse, que le soleil s'y éteindrait. Les pensées ou les sentiments qu'elle faisait marcher devant elle, quand elle était vive et forte, sont engloutis dans ces ténèbres. Son puissant désir de vivre a disparu. Il lui semble que son cœur est vide, que Dieu est infiniment loin, et que son corps inerte est une petite colline triste au fond d'un immense abîme. Sans doute que tout est détruit sur la terre. Pourtant, elle n'a pas vu la croix de feu qui doit apparaître quand Jésus viendra dans sa gloire pour juger vivants et morts. Elle n'a rien vu et rien entendu. Ai-je donc été jugée pendant mon sommeil, songe-t-elle? Le silence, à la fin, s'émeut et se plisse comme une eau de plomb où s'éveilleraient des bêtes inconnues. Elle entend un bruit. Oh, mais si faible, si lointain, qu'on dirait d'un de ces pauvres trépassés qui n'ont presque pas la permission d'appeler à leur secours et que les vivants cruels n'écoutent jamais. Le cœur de la pitoyable fille bat à gros coups contre les murailles de son sein, cloche sourde et muette dont le branle désespéré ne troublerait pas un atome. Le bruit extérieur augmente. Un moment, on cogne, on vocifère, puis le silence retombe. Or, il n'y a plus de ténèbres. Elles ont pris la fuite comme un troupeau noir qu'une panique aurait dispersé. Clotilde voit une étendue morne et pâle, une terre déserte, sans voix et sans eau, selon les paroles du prophète, et le bon Gacougnol lui apparaît. Il est mort, il a un couteau planté dans le cœur et sa poitrine est inondée de sang. Il ne marche pas, il glisse ainsi qu'une masse légère poussée par le vent. Il passe tout près d'elle, la regarde de ses yeux éteints avec une compassion douloureuse et lui dit « Vous êtes nue, ma pauvre fille, prenez mon manteau. » Elle découvre alors qu'elle est entièrement nue. Mais le spectre déjà n'a plus de manteau à lui donner, plus de visage, plus de main, et le geste qu'il voulut faire a suffi pour le dissiper. Marchenoir surgit à son tour. Celui-là, du moins, paraît vivre. Mais on ne distingue pas sa figure, tant il marche courbé. Et quel fardeau, Dieu de miséricorde, quel fardeau épouvantable sur ses épaules. Ensuite, c'est fini. Personne ne passera plus. Une impénétrable forêt a jailli du sol, une de ces forêts du tropique où la foudre allume des incendies. En voilà un précisément qui éclate. Effrayant et magnifique spectacle. Ô Jésus en agonie, n'est-ce pas Léopold qu'elle aperçoit au centre de la fournaise, avec sa haute et dédaigneuse face ravagée par d'inconcevables tourments? Il aura été surpris, le malheureux. Le voilà qui lutte contre ces cascades de feu, comme il lutterait contre une armée d'hippopotames en colère. Mais sa chevelure s'est enflammée, il se croise les bras et brûle, impassible, comme un flambeau. La dormeuse a pu enfin jeter un grand cri. Réveillée instantanément, elle s'élance hors de son lit, arrache d'une main ferme ses rideaux en feu, les foule sous un tapis et ouvre la fenêtre pour chasser l'odeur suffocante. Il fallait vraiment qu'elle fût bien troublée ou bien assommée pour avoir oublié de souffler sa bougie avant de s'endormir. Elle met ses deux mains sur son cœur pour en comprimer les palpitations. « Tu n'as pas assez prié Dieu ce soir, Desdémone, » dit-elle en se rappelant les lectures de l'atelier. « Quel horrible cauchemar !» Elle se souvient, une fois de plus, de la prédiction mystérieuse du missionnaire. « Quand vous serez dans les flammes ?» Bien souvent, le jour, elle y pensait. Faudrait-il maintenant qu'elle y pense le long des nuits? Mais pourquoi ce Léopold, qu'elle a vu à peine quelquefois et qui est pour elle un inconnu? Pourquoi lui est-il montré d'une manière si tragique et qui correspond si exactement à sa plus secrète préoccupation? Le sommeil qui charge de chaînes le corps humain a le pouvoir de restituer à l'âme, pour la durée d'un éclair, la simplicité de vision qui est le privilège de l'innocence. C'est pour cela que les impressions d'horreur ou de joie reçues dans les songes ont une énergie dont la conscience est humiliée quand la mécanique de luxure a ressaisi son empire. La physionomie de pirate ou de condottiere et de Léopold avait paru à Clotilde si surnaturelle dans le décor de son rêve qu'elle crut que ce personnage énigmatique lui était révélé. Elle vit en lui un de ces héros en désuétude, criblés d'ombre et de dédain par un monde ignoble, qui ne peuvent se manifester que dans quelques soudaines et inimaginables conflagrations. Et cela devint aussitôt pour elle un autre rêve si profond que tout s'y noya. L'image, terrible pourtant, de son bienfaiteur poignardé, celle de Marche Noire écrasée sous le poids d'une vie aussi lourde que les contreforts du ciel, disparurent. Faiblement, elle s'étonna de son versatile cœur qu'elle ne pouvait retenir, qui s'en allait spontanément vers un étranger. « Allons, je suis une sotte !» s'écria-t-elle, refermant la fenêtre d'où venait un air glacial. « Une sotte rêveuse et une ingrate !» Elle s'agenouilla devant son lit pour une prière et se rendormit dans cette posture en sanglotant. « Vous avez le sommeil dur, mademoiselle, » lui dit son hôtesse à l'heure du déjeuner. « Voici une lettre que le porteur m'avait prié de remettre sans retard. Vous ayant entendu rentrer à 3 heures, j'ai cru bien faire de frapper chez vous. Mais vous dormiez déjà si profondément que je n'ai pu vous réveiller. » « Quand je verrai M. Gacougnol, je le gronderai de vous garder si longtemps. Le cher homme n'est pas raisonnable, il devrait vous ménager. » Clotilde, qui venait de prendre la lettre et qui avait reconnu l'écriture de sa mère, demeura immobile, saisie de ces derniers mots qu'on aurait pu croire portés sur les ailes d'un doux zéphyr et dont l'intention n'était pas douteuse. Elle vit en plein la malice infernale de la drôlesse qui l'insultait, et devina l'extrême satisfaction des pensionnaires, voluptueusement chatouillés de cette insolence en leur plus intime recoin. Une seconde, elle fut sur le point d'éclater, mais elle se rappela en même temps sa résolution, prise dès le premier jour, de mettre un dragon à chacune des 3 portes par lesquelles ces tourmenteuses auraient pu pénétrer dans son âme. Depuis plusieurs mois qu'elle mangeait à la pension, elle ne disait rien, ne voyait rien, n'entendait rien. Elle s'était enfermée dans sa volonté comme dans une tour. Pourquoi donc, alors, n'aurait-elle pas enduré les conjectures ou les soupçons outrageants aussi longtemps que la haine basse dont elle se sentait enveloppée ne serait pas incompatible avec sa paix intérieure? Elle avait, d'ailleurs, pour elle-même, aussi peu d'estime qu'une femme en peut avoir, et trouvait infiniment naturel de ne pas en inspirer. Aux fréquentes questions que lui faisait Gacougnol, elle avait invariablement répondu avec assurance que rien ne manquait à son bien-être, Et vraiment, elle pensait ainsi. Cette fois, pourtant, l'injure était si flagrante qu'il lui parut difficile de la dévorer, et un peu d'héroïsme lui fut nécessaire pour se borner à répondre que Gacougnol lui avait fait l'honneur de l'admettre à une soirée d'artistes, où figuraient de non moindres personnages que Follentin et Bohémond de l'Île-de-France. Vengeance infaillible! L'institutrice déplumée, folle de gloire et qui ne pouvait attirer chez elle que des reporters ou des poètes de concours, aurait accompli des actes de vertu pour obtenir une telle faveur. Clotilde ne se résolut à ouvrir sa lettre que lorsqu'elle se fut retirée dans sa chambre. Elle n'espérait aucune consolation de cette lecture, et la nuit affreuse qui avait laissé son ombre sur elle ne la disposait pas aux pressentiments joyeux. La femelle de Chapuis l'avait laissée jusqu'à ce jour, il est vrai, tout à fait tranquille, n'ayant même pas cherché à lui soutirer de l'argent, ce qui pouvait passer pour un miracle. Sans la crainte de rencontrer l'horrible voyou, Clotilde aurait déjà tenté de la revoir, car la paix charmante où s'engourdissait le souvenir des tribulations d'autrefois l'inclinait à une sorte de pitié pour sa misérable mère. En ce moment, elle ne sentait que de l'inquiétude et de l'effroi. Voici ce qu'écrivait la compagne d'Isidore. « Ma chère enfant, ta tendre mère qui t'a portée dans ses flancs et qui a tant souffert pour te mettre au monde est sur le point d'achever son pèlerinage terrestre. Ma Clo-Clo bien-aimée, je voudrais te bénir une dernière fois avant de retourner dans ma céleste patrie. La bénédiction d'une mère porte bonheur. Je ne veux pas te faire de reproches au moment où je vais revêtir la robe blanche pour paraître devant mon fiancé. Je sais que tout n'est pas rose dans la vie et je ne peux pas te blâmer d'avoir su te faire une position, mais tu n'as pas été gentille pour tes vieux parents qui t'adorent. Quand ton monsieur Gacougnol m'a jeté à la porte, j'ai eu les sangs tournés et c'est ce qui est cause de ma mort. Zizi te ferait pitié. Le pauvre agneau est comme une âme en peine depuis ton départ. J'irai l'attendre dans le ciel où il ne tardera pas à me suivre, le chérubin. Cependant, nous te pardonnons de bien bon cœur. Viens dans nos bras, viens fermer les yeux à la sainte créature qui a tout sacrifié pour toi. Accours, mon enfant, mais n'oublie pas d'apporter un peu d'argent pour m'ensevelir, car nous n'avons plus rien. Ta pauvre mère, qui aura bientôt cessé de souffrir. Rosalie. C'est un mensonge, dit Clotilde en posant la lettre qui était, d'ailleurs, puante et sordide, quoique burinée d'une main très ferme et même orthographiée avec luxe. Toute une enfance de larmes et toute une jeunesse d'enfer étaient dans ce mot. Elle décida néanmoins d'aller à Grenelle. Mais elle ne pouvait se dispenser d'en avertir Gacougnol et courut d'abord à l'atelier. « Bon Dieu, ma chère petite !» cria le peintre en l'apercevant. « Comme vous voilà déterrée, seriez-vous malade ?» Elle lui raconta sa mauvaise nuit et l'incendie de ses rideaux, sans parler toutefois du cauchemar. Puis, spontanément, lui donna à lire la lettre de sa mère. « Mais, ma pauvre Clotilde, on vous tend un piège. Votre mère n'est pas plus mourante que moi, la digne femme. On suppose avec noblesse que je vous comble de trésors. » Et on meurt surtout du désir de les extraire de votre porte-monnaie. Je comprends très bien cependant que vous teniez à éclaircir ce point. Écoutez, je m'intéresse infiniment plus à votre situation qu'aux sottes besognes que je fais ici. Vous ne savez pas? Nous allons partir ensemble. Je vous déposerai à l'église la plus proche du chérubin et j'irai seul prendre des nouvelles de la sainte créature. Inutile de vous dire que je ne m'attarderai pas dans ce lieu charmant. De toute manière, vous me verrez reparaître bientôt, et si votre présence est indispensable, vous le saurez par moi d'une manière certaine. » La proposition avait quelque chose d'exorbitant. Clotilde hésita une minute, rien qu'une minute, juste ce qu'il fallait pour que sa volonté, déjà si parfaitement acquise à cet homme, s'inclinât. Et cette minute décida de leur destin.